Merci de suivre donc cette rubrique Regard sur l'économie, la gestion de l'économie nationale. Nous nous intéressons aujourd'hui à la situation mondiale, situation économique sans temps, mes auditeurs. Et c'est avec François Nozon qui est dans ce studio déjà pour cet espace. Monsieur Nozon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on peut le dire, hein, Monsieur Nozon, vous qui vous intéressez en tant qu'économiste à ce qui se passe dans le monde, la situation économique mondiale inquiétante, en tout cas, ce que nous voyons. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr, avec d'abord le coronavirus que nous avons connu et qui a entraîné une baisse, de la variation des différents PIB dans le monde. Et il faut dire que après on a connu, sinon on connaît encore, des cas d'inflation dans tous les États du monde. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Et cette inflation n'est pas prête de prendre fin dans ce cas de figure. Qui dit inflation parle de baisse du pouvoir d'achat. Et qui parle de baisse du pouvoir d'achat parle, disons, d'un impact négatif sur la variation de la production nationale.
Alors, justement, vous avez utilisé un terme que nous avons expliqué ici dans une de nos émissions, l'inflation causée par ces chocs extérieurs, la COVID. Alors, le citoyen lambda peut se poser la question. Mais une maladie qui a commencé en Chine, et bon, c'est vrai qu'il y a eu des cas ici en Côte d'Ivoire, mais en quoi cela peut jouer sur mon pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous répondez en tant qu'économiste?
Mais vous savez que lorsque la COVID a commencé, il y a eu une fermeture de toutes les frontières. Et il n'y avait plus véritablement de croissance macroéconomique. C'est-à-dire la croissance macroéconomique dépend de certains paramètres tels que les investissements, la consommation, le sort du commerce extérieur. Justement, ce sort du commerce extérieur n'existait pas. Même les investissements étaient devenus rares et la consommation, elle aussi, était devenue rare. Dans ce cas de figure, les produits qui se vendent, qui ne se vendent pas, deviennent très chers. Et lorsque les produits deviennent très chers et que le salaire n'augmente pas, vous payez un peu plus cher. Donc, il y a une baisse de votre pouvoir d'achat. Il y a même un appauvrissement de la population.
Voilà. Concrètement, ça veut dire, hein, pour aller un peu dans votre sens, du fait de cette maladie, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières. Donc, les commerces entre les pays, c'était avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Voilà, puisqu'on se dit que ce sont les transactions qui peuvent véhiculer c'est cette maladie. Et donc, on se méfiait de son voisin, hein, puisque même certaines frontières sont fermées jusqu'à maintenant, hein, les frontières terrestres. C'est tout cela qui peut expliquer cette augmentation généralisée des prix qu'on appelle l'inflation, c'est cela?
Mais bien sûr, quand on ne peut plus rien acheter, quand on ne peut plus avoir des relations financières avec l'étranger, parce qu'on produit aussi par avantage comparatif. Lorsque ce que vous produisez sur votre territoire, sur vos terres, est beaucoup plus cher que ce qu'on produit à l'étranger, mais on préfère acquérir la marchandise à l'étranger. Voilà comment ça se passe. Mais cette marchandise, du fait de la fermeture des frontières, n'y vient plus. Celle qu'on a ici à l'intérieur va voir les prix de ces marchandises-là augmenter et cela va entraîner une inflation, j'allais dire une inflation galopante.
Alors, nous étions en train de sortir un peu de la COVID, la situation, avec les différentes politiques prises pour soutenir les opérateurs économiques, pour parler de la Côte d'Ivoire notamment. Et puis, voilà, il y a cette guerre russo-ukrainienne. Au début, on a vu ça un peu loin. La Russie et l'Ukraine, c'est deux pays certes amis à la Côte d'Ivoire, mais bon, qui sont assez loin. Mais on entend certains économistes, des autorités qui expliquent aussi des cas d'inflation dus à cette guerre-là. Vous, économistes, est-ce qu'effectivement, une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres peut avoir de l'impact sur nous?
Ah, mais bien sûr, parce que là, il s'agit du commerce international. Il y a beaucoup de produits qui viennent de ces pays-là, de la Russie, de l'Ukraine, de l'Europe, il y a des produits pharmaceutiques, il y a des produits, il y a du vivrier, il y a des produits finis, semi-finis, etc., qui viennent de ces pays-là. Et dès lors où on ne peut plus les avoir, eh bien, leurs prix vont augmenter. Et si les prix augmentent et que cela se généralise, ça devient une inflation. Donc, la guerre, russo-ukrainienne a aussi une importance dans le cadre.
Didier. Bon, allons-y. C'est le présentateur qui a très crié. Allez-y, allez-y.
Ah, c'est qui crie?
Non, non, il est de l'autre côté.
Il a leur dit.
Il monte maintenant?
Oui, c'est, tu le connais. Quand il veut monter, c'est pour évacuer son stress. Donc, il aime crier comme chose. Donc, il n'a qu'à son retour, là, il n'a qu'à baisser ici un peu.
Dites-lui de se ne plus parler pour qu'on puisse.
Pardon, ton retour, là, il faut baisser un peu.
Oui, il a baissé.
Ah, merci.
C'est Didier qui a fait.
Donc, allez-y, s'il vous plaît. Donc, nous parlions, en fait, de cette guerre, de ses conséquences, vous l'avez expliqué. Mais intéressons-nous un peu à l'économie de la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire faisant partie de cette zone-là. Comment cette zone économique et monétaire a pu résister, de votre avis, à ces chocs extérieurs-là?
Oui, c'est vrai qu'on a pu résister par rapport aux autres pays qui ne font pas partie de notre union. Mm-hmm. Là où eux, ils attendent un taux d'inflation de 40%, nous, on était à 5-6%. Mm-hmm. C'est déjà une réussite totale dans le cadre de la gestion de notre politique économique et financière. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce qu'on a réussi?
Oui, justement, quels sont les secrets, hein? On peut vous poser la question.
D'abord, c'est le fait de l'union. C'est le fait d'appartenir à une union. Mm-hmm. On a la même, on a une balance des paiements individuels, mais on a aussi une balance des paiements commune. Et lorsqu'on dégage un solde monétaire, c'est d'abord un solde monétaire commun. Et on a cette particularité de nous entraider. Mm-hmm. Et c'est déjà un point important en matière de gestion de nos différentes politiques économiques et financières. Et puis on a aussi d'autres atouts. C'est que nous sommes avec toutes les institutions économiques et financières internationales. Toutes les banques, telles que la Banque mondiale, la BAD, mm-hmm. le FMI, etc. Ce sont des institutions qui nous aident dans le cadre de la gestion de nos politiques économiques et financières. Mais il y a d'autres pays qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas en programme avec ces instances-là. Et il va de soi qu'en période de difficulté, que ces pays n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mm-hmm. Mais ça n'a pas été le cas de nos différents pays. Et puis on a suivi au niveau de notre union, on a suivi le monde. Et des pays où on parle, par exemple, je prends les pays de l'Europe, ceux qui relèvent de la BCE. Et lorsque ces difficultés financières ont commencé, que ce soit la BCE, que ce soit la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, et ces pays-là ont dû agir sur les différents taux directeurs.
Justement, j'allais te demander quels sont les instruments qui ont été utilisés et comment vous jugerez-vous l'efficacité de ces instruments-là pour juguler ces taux d'inflation dans ces différents pays? Vous parlez par exemple de l'UEMOA.
Mais il y a une baisse des taux d'intérêt. Lorsque le taux d'intérêt baisse, c'est qu'on couvre le crédit.
Le taux d'intérêt de quoi déjà?
Le loyer de l'argent. Mmh. Voilà, parce que là, il y a eu une demande exceptionnelle de monnaie, mmh. une demande intérieure exceptionnelle de monnaie que les différentes banques centrales ont dû mettre sur pied. Parce qu'on n'y vendait plus. Il n'y avait plus autre solution. L'unique solution qui restait, c'était de développer l'investissement. Et l'investissement, il fallait alors agir sur les taux directeurs. Et ça, d'une manière, j'allais même dire artificielle, les banques centrales ont dû créer de la monnaie. Et le fait que cette monnaie ne soit pas trop chère, le fait que les taux directeurs aient baissé, et on a relancé l'économie par l'investissement. Et comment est-ce que cela s'est fait concrètement? C'est que cela a permis aux pays membres de l'UEMOA, par exemple, de mettre sur pied des bons du trésor, des bons des obligations du trésor, de les vendre à nos banques et à nos ménages et autres. Mais ces banques-là qui les achètent ont elles-mêmes obtenu un prêt auprès de la Banque centrale, à des prix qui n'étaient pas très élevés. Donc elles ont pu satisfaire nos différents États et cela nous a permis de relancer l'investissement. Or, dès lors que vous relancez l'investissement, c'est que vous relancez aussi la consommation. Voilà. Donc on a eu une demande globale, proactive, c'est le terme qu'il faut. Donc la demande s'est développée et dès lors que la demande se développe d'une manière positive, elle a un impact positif sur le sol du commerce extérieur. Et ces différents impacts-là entraînent un taux de croissance positif. Voilà comment est-ce que nous avons fait pour sortir de l'ornière.
Alors, on sort de l'ornière aujourd'hui. Quelle est la situation? C'est vrai, 2022, on vient de terminer. Quel est le tableau et éventuellement les perspectives pour 2023?
Mais je pense que les perspectives sont très bonnes. Par exemple, lorsqu'on parle de notre taux d'inflation, il était de 7,5% au niveau de 2 mois en 2022, contre 3,6% en 2021. Mais en 2023, il y a un espoir. Ce taux d'inflation va un peu s'amenuiser. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un taux de croissance qui était de 2% en 2020, qui est passé à près de 6%, il y a même 17% en 2021. En 2022, il est revenu à près de 6%. Et je crois qu'en 2023, il y a encore une croissance qui sera positive. Et donc les perspectives, tant au niveau de l'Union qu'au niveau des pays pris individuellement, et celui que je connais le plus, c'est la Côte d'Ivoire, à notre niveau, les perspectives sont très bonnes. Et l'objectif, c'est de maintenir le pas. Et c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus à, si vous voulez, à baisser les taux d'intérêt. On les avait déjà augmentés pour ralentir un peu le niveau de l'inflation. Et ça a commencé à nous réussir. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir cette procédure-là pour permettre à nos pays de battre cette inflation galopante.
En tout cas, alors, oui, Monsieur Onozon, on parlait éventuellement de cet aspect de gestion économique de la Côte d'Ivoire, le pays qui est dans la zone UEMOA, qui a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Voilà, pour les perspectives 2023, les autorités annoncent un taux, par exemple, de croissance qui oscillerait à 7% et plus. Alors, pour vous, cette dynamique amorcée, malgré ces taux d'inflation notés ici et là, on peut y croire, malgré ce bourrasque connu, le pays peut maintenir le cap, de votre avis?
Ah oui, et c'est même visible. Je vous disais tantôt que, d'abord, notre inflation va en baissant. C'est déjà un élément qui est positif. Et puis, notre croissance aussi est peut-être soutenue d'une manière ou d'une autre. Parce que partout, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a des investissements dans tous les domaines. Mm-hmm. Et notamment les routes, les hôpitaux, les ponts, tout ce qu'on peut imaginer. Or, l'investissement est le moteur de la croissance. Et ça, les Ivoiriens l'ont compris. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, partout où vous allez, ce sont des investissements à ne plus en finir. Mais ça, c'est bon pour une gestion économique et financière cohérente et optimale. Et dès là où on s'est lancé dans cette politique, dès là où on s'est lancé dans cette procédure de gestion de l'économie nationale, je pense qu'on ne peut qu'être optimiste quant à la suite des événements économiques et financiers.
Alors, tout est rose, alors on peut dire, ou bien il faut s'inquiéter quand même sur certains aspects, puisque ce sont des chocs extérieurs qu'on maîtrise toujours pas. Hein. On a vu un peu en 2020 le branle-bas. Hein. C'est vrai que les autorités ont pris des décisions pour essayer de juguler déjà l'impact de la COVID. Mais est-ce que on peut dire que cette lancée-là ne pourrait pas gripper éventuellement s'il y avait des situations imprévues?
Oui, c'est possible, mais tout dépendra des dispositions qu'on prend au plein, et sur le plan interne. Et surtout que pour ce qui est de la situation économique dans le monde, les chiffres que nous avons ne sont pas si éloquents que ça. Je vois par exemple le taux de croissance aux États-Unis qui était de 5,7% en 2021, qui passe à 1,6% en 2022, et en 2023, ça passe à 1%. Dans la zone euro, 5,2, et en 2021, 3,1 en 2022, 0,5 en 2023. Et c'est pour vous dire que le monde lui-même, en termes de gestion des paramètres macroéconomiques, il y a des difficultés à l'horizon. Ce qu'on peut demander à un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est à travers 8 mois de maintenir sa politique économique et financière, de maintenir les investissements, d'aller de plus en plus en termes d'investissement et de développer ce qu'on appelle une demande globale, comme c'est le cas actuellement.
Qui est quoi la demande globale?
Mais c'est la consommation plus l'investissement. C'est le moteur de la variation positive de la production nationale. Et si cet état d'esprit est respecté, moi je pense que malgré les difficultés que nous traversons, que le monde entier traverse ou traversera, la Côte d'Ivoire pourra, à mon sens, se maintenir.
Alors, beaucoup se posent la question. Quand vous citez des pays comme les États-Unis, la France et bien d'autres pays européens, la Côte d'Ivoire, pays en développement, voilà, par rapport à ces pays développés, qui ont des taux de croissance de 1%, de 0,5%, pendant que nous, on ambitionne 7%, le citoyen s'interroge, est-ce possible? Pourquoi, par exemple, nous, on parle de 7% pendant que deux fois, ces pays qui nous prêtent l'argent?
Mais bien sûr, la croissance, c'est la variation de la production nationale. C'est vrai qu'on n'a pas le même niveau de production nationale. Mais à un moment donné, il faut faire une comparaison entre la production à la période N et la production à la période N plus 1. C'est cette variation-là qui met en relief le taux de croissance macroéconomique. C'est exactement les mêmes calculs que font les autres pays. Mais eux, c'est dans des proportions assez éloquente, importante. Voilà. Donc, qu'on soit un pays développé ou un pays en voie de développement, on a droit à une variation de la production nationale. Et ce que nous relevons, ce que nous récoltons en termes de variation, mais ce n'est pas la même chose que les autres récoltent, un pays comme les États-Unis, ou un pays, ou alors la zone euro, ou même la France, la Chine, etc. Mais cela ne veut pas dire que nous n'évoluons pas. Donc c'est par rapport à des périodes et par rapport à une production nationale. Ne regardez pas le niveau du taux, mais regardez plutôt les réalisations. C'est ceux ça. Qui réalisent un taux de croissance de 1%, mais en termes d'éloquence, ils ont des réalisations qui sont importantes. Là-bas, il est mieux même d'avoir un taux de 1% que d'avoir un taux de moins 1% ou moins 2%. Voilà, ce serait vraiment marquer une baisse assez importante du niveau de la production nationale.
En tout cas, c'est noté. Merci à vous, Monsieur Nozon. On comprend un peu mieux, justement, si l'impact de ces chocs extérieurs, voilà, la COVID, la guerre russo-ukrainienne ou des situations imprévues dans l'économie d'un pays et comment le pays réussit à résister. En tout cas, c'est important hein, de mieux comprendre ces mécanismes-là. Et vous nous avez expliqué. Nous n'avons pas terminé. Hein. On va aborder dans notre prochain numéro justement des aspects plus concrets pour savoir justement en quoi ces chocs-là pourraient être évités. Vous avez donné quelques éléments, mais on revient la semaine prochaine. Amis auditeurs, merci de votre fidélité. Merci à vous, M. Onozon.
Merci.